Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
James Dean, une belle gueule et du sex-appeal à revendre. Une carrière fulgurante, trois films en 16 mois. Des films emblématiques.
RTL.
You say one thing, he says another, and everybody changes back again.
Et une mort brutale à 24 ans.
Jusqu'à 22h.
I love you, Jim. I really mean it.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il aurait eu 84 ans en février dernier. On a du mal à l'imaginer tant son image de jeune rebelle de 24 ans est gravée dans nos rétines. James Dean est mort il y a 60 ans, un 30 septembre 1955. Il est à l'affiche de Life, le film du réalisateur Anton Corbijn. Et on va parler de son destin d'étoile filante avec une autre étoile qui ne file pas, qui reste avec nous tout de la fin de cette soirée.
J'espère, je conduis moins vite.
C'est ça, Stéphane Boutsock, bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
On ne vous présente plus, hein, vous êtes le monsieur cinéma d'RTL. Ce film Life raconte l'amitié entre James Dean et le photographe qui l'a immortalisé à ses débuts. Pourquoi cette série de clichés est devenue culte?
Parce que ce sont des photos qui ont été prises d'abord dans l'intimité de James Dean, c'est-à-dire dans une partie de sa famille qui vivait dans l'Indiana, à la campagne, et on le voit pas du tout apprêté, pas du tout dans le rôle de star que ces trois films et ces deux films posthumes ont laissé. Mais on voit un gamin, il avait 24 ans quand il est mort, donc c'est encore un tout jeune homme, à la ferme avec les cochons, sur le tracteur. Il y a aussi une série à New York sous la pluie. Enfin, ce ne sont pas des photos glamour. Le photographe, là, Denis Stock, c'est ce que raconte le film Life, avait perçu quelque chose en lui et avait réussi à saisir quelque chose que les films n'ont pas laissé, en tout cas.
Est-ce que c'est à cette époque que James Dean avait... Est-ce que à cette époque, pardon, James Dean avait déjà tourné La Fureur de Vivre?
Alors, à cette époque-ci, il avait tourné à l'Est d'Éden. À l'époque des photos, vous entendez, hein?
Oui,
bien sûr.
C'est l'époque vraiment où la Warner décide de miser vraiment sur lui, avec quelques doutes, on en reparlera. C'est juste avant, et puis il y aura ensuite le tournage de Géant, en tout cas. Non, à l'époque, il n'a pas fait ses preuves encore, c'est pas une star.
La Fureur de Vivre, on en a un petit extrait, je crois.
Tu veux que je te dise, toi?
Ah oui, quoi? Tu lis beaucoup trop de romans policiers.
Ah, voilà qui me fait de la morale, lui, maintenant. Il n'est pas comme les autres. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. Et je suis gentil encore.
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie?
Une poule mouillée.
Dis-moi.
Oui, t'es un dégonflé.
Je veux pas qu'on m'appelle comme ça. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Faut toujours que tu sois au premier rang.
En quoi ça te regarde?
Non, ça me regarde pas. Mais pourquoi fais-tu partie de cette bande de voyous?
C'est la version française, donc forcément c'est un peu frustrant parce que moi j'ai vu le film Life et le comédien qui joue James Dean a une voix particulièrement lente, traînante. Qu'est-ce qu'il a cherché? C'était quoi, un accent d'Indiana d'une certaine façon?
Oui, c'était d'ailleurs un peu la réputation qu'il avait aussi à Hollywood, c'est qu'il y avait un côté bouseux aussi dans la vie. C'était très péjoratif évidemment à l'époque. Mmh. Et le ton que le personnage qui est joué par Dan DeHaan, donc ce jeune comédien dans James Dean, il lui ressemble pas tout à fait physiquement, mais il a beaucoup bossé, et moi il me l'a raconté, sur la voix. Il a eu accès à des documents que la famille garde évidemment précieusement. Il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a une interview qui était faite en même temps que cette séance photo. James Dean portait sur lui un des premiers appareils à enregistrer c'est sûr que c'était une montre, c'est une sorte de montre espion pour pas du tout gêner sa famille. Et c'est sa voix et ce ton très très lent, en effet, lancinant, languissant, c'était apparemment la voix qu'il avait.
Et est-ce que c'est un symbole, James Dean, déjà à cette époque-là, donc au milieu des années 50, on a dit jeunesse rebelle, est-ce que c'est vraiment ça?
Alors, c'est en tout cas ce qu'il va incarner à l'écran dans les trois films. Il avait fait quelques apparitions dans des films avant, mais vraiment genre j'ouvre une porte de dos, donc on l'a pas vraiment remarqué. Les trois films pour les
mais vous les avez retrouvés.
Mais évidemment, j'ai revu tous ces films. À l'Est d'Éden, La Fureur de Vivre et Géant. C'est assez troublant parce que dans ces trois films, il est en rébellion contre quelque chose. Ouais. Soit contre la société, soit contre sa famille, soit contre le monde de l'argent, soit contre son père de cinéma. Et on verra tout à l'heure que son père dans la vie, ça a été une relation extrêmement conflictuelle. Mm-hmm. Donc oui, pour la jeunesse de cette époque-là, on est milieu années 50, hein, c'est 10 ans après la guerre, il n'y a pas eu tout ce qui sera autour de mai 68. La jeunesse américaine où il découvre un gars de son âge qui incarne des jeunes qui osent aller en rébellion contre un système. Et c'est vraiment quelque chose qui va lui rester. Sa disparition tragique, en plus, le laissera dans le marbre, comme ça.
Mmh. Alors on va raconter son histoire, bien entendu. Stéphane Boutsock, vous parlez de jeunesse américaine. La jeunesse de James Dean, elle se fait dans l'Indiana avec une famille De quel type? Soudée? Alors, aimante? Ben, heureuse?
C'est très compliqué la jeunesse de James Dean. Apparemment, c'est pas un enfant qui était vraiment souhaité. Sa mère tombe enceinte, son père à l'époque l'accepte évidemment. C'est pas un couple extrêmement soudé, ça se passe pas bien. Puis il y a un drame évidemment effroyable dans sa vie, c'est qu'à 9 ans, il perd sa maman d'un cancer et il va dès ce moment-là reprocher à son père finalement de ne pas l'avoir mis au courant. Le cancer, c'est un cancer du col de l'utérus, c'est encore extrêmement tabou dans la société américaine à l'époque. Et son père va taire cette maladie qui est pas une maladie honteuse, mais une maladie dont on parle pas beaucoup, qui touche à l'intimité. Et donc, dès ce moment-là, James Dean, qui était couvé par sa maman, vraiment protégée, c'est elle qui l'a encouragé à fréquenter les arts, à faire du sport, voilà, elle l'a aidé. C'est évidemment un drame absolu dans sa famille. Son père, en plus, va lui faire comprendre qu'il n'est pas tout à fait fait pour élever un petit garçon en père célibataire. Donc, il va l'exiler dans sa famille, qui se trouve vraiment au fin fond de l'Indiana, une famille très religieuse, en plus, de Quaker. Ça va se passer moyennement, parce qu'il est très vite passionné par le théâtre. Il va revenir voir son père qui aura déménagé ensuite du côté de Los Angeles et ça se passera pas bien parce que James Dean va se passionner pour le théâtre et là aussi c'est pas très propre.
Et puis il veut faire de l'art dramatique à UCLA et ça son père va pas vouloir.
Ah pas du tout, pour lui vraiment c'est indigne, ce sont
un
pas
métier
des
saltimbanque.
Voilà, métier saltimbanque avec en plus je crois dès cette époque de la part de James Dean d'un point de vue intime une sexualité qui aussi entre garçon et fille et ça passe encore plus mal évidemment dans ce milieu et dans sa famille.
Mais il va faire heureusement la rencontre, la connaissance d'un dénommé Roger Brackett.
Oui.
Qui est-il d'ailleurs ?
Alors, Roger Brackett, c'est un producteur de shows radiophoniques et quelqu'un qui met aussi en scène les publicités. À cette époque-là, les publicités, c'est toute une affaire, c'est pratiquement un spectacle. Et il va craquer sur James Dean, il va craquer physiquement aussi sur James Dean.
Il va donc tomber amoureux de James Dean.
Oui, et puis ça va être aussi assez réciproque. Et James Dean va comprendre aussi, c'est la réputation qu'il aura longtemps, Hollywood, de comprendre qui peut lui servir et à quoi, que ce soit des filles ou des garçons. Et avec cet homme-là, va se nouer une relation amicale, une relation sexuelle aussi, ce serait aussi un mentor, quelqu'un qui lui apprend les arts, qui lui apprend le théâtre, et il va beaucoup l'aider parce qu'il va le faire tourner dans des pubs qui vont être aussi le début de la carrière de James
Dean. Et on va les découvrir ces pubs dans un instant avec vous Stéphane Goodsock dans La Curiosité.
Vous écoutez RTL.
Un mythe, une icône, une idole, James Dean était tout cela à la fois. Sa carrière éclair débute en 1950. Par une publicité, c'est ça, Stéphane Goodsock ?
Oui, une pub pour, on peut citer les marques.
Bien sûr. Allons-y.
Une pub pour Pepsi Cola. Ouais. Je crois qu'on va l'écouter, mais elle est assez marrante. Il est dans un groupe de jeunes gens qui sont autour d'un piano et à tour de rôle, ils vont danser avec une fille, mais ils sont quand même ramenés vers le piano par Pepsi, qui semble avoir un goût beaucoup plus irrésistible que le goût de la jeune fille en question. Alors, on l'aperçoit beaucoup au début, un petit peu à la fin, mais il y a une tronche tout de suite, vraiment.
Il rayonne.
Oui, vraiment. Il sourit, il est très beau, vraiment.
On en écoute la bande son. On est bien au début des années 50 là.
1950.
Hein. Oui, c'est bien. Il fait quelques apparitions télé aussi, James
Dean. Oui, il va tourner dans quelques petites séries, toujours grâce à ce Pygmalion là dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Il se fait remarquer quoi. C'est vraiment il fait partie des jeunes premiers de l'époque. Il y a aussi Paul Newman. Il y a toute une génération qui naît vraiment à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a de l'ambition ou même de l'opportunisme pour être un peu plus négatif dans cette jeune carrière de James Dean?
Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le film qu'on a vu. Hein,
Live.
Présenté à Deauville notamment, qui s'appelle Live d'Anton Corbijn, c'est que on montre, oui, l'ambition, l'envie de réussir, et puis une certaine... Je pense qu'il était aussi assez persuadé de son talent. Enfin, il y avait aussi une histoire d'ego qui était importante. Par contre, ce qu'on sent très bien dans le film, ce qui lui fait peur, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire d'être suivi par la presse. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il est réticent sur la séance photo au début. Mmh. Oui, il fréquente notamment Elizabeth Taylor. Enfin, c'est un milieu qu'il connaît, et il sait très bien qu'il y a un revers à la médaille et qu'il va être traqué s'il devient une star. Donc on le voit vouloir réussir, oui, mais essayer de freiner un peu sur la médiatisation.
Et subir la pression du patron de la Warner.
Warner, qui est joué par Ben Kingsley dans le film.
Super, c'est...
Qui est formidable, il était bien gentil, t'es sous contrat, la promo tu vas la faire, et sinon, comme sinon, tu tournes pas le film d'après. Et finalement, il dit oui.
Sauf qu'il prend l'avion pour partir en Indiana dans sa famille.
Voilà, bon. Il est assez imprévisible quand même.
Voilà.
Il va tenter sa chance, James Dean, à Broadway.
Oui, mais c'est là d'ailleurs que Elia Kazan va le remarquer pour lui faire tourner.
Il joue dans une comédie musicale, c'est ça ?
Oui, une comédie musicale, et il a un vrai talent, mais ça, il le fait depuis l'enfance. Et là, on revient à maman, c'est sa mère qui, dès l'enfance, lui fait jouer des pièces au collège, lui fait jouer des pièces au lycée, et il va recevoir des prix. C'est-à-dire que dès, il apparaît-il une interprétation de Frankenstein qui avait saisi l'assistance d'effroi, parce qu'il était tellement criant de vérité que dès ce moment-là, il a reçu un prix du meilleur collégien.
Déjà gamin, oui,
déjà gamin.
Une douzaine d'années.
Donc il joue au théâtre, il va jouer dans des séries, et on dit que c'est un petit peu une tête de mule, James Dean.
Bah oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il vient pas aux répétitions, tout à fait. Alors, il a beaucoup de talent, donc même si c'est pas trop son texte, ça passe. Puis ça a pas l'air de l'amuser tant que ça, c'est-à-dire qu'il fait le métier, mais oui, il y va un peu entrer dans des pièces qui lui vaudra une réputation, si vous me permettez, de chieur quand même assez au début. Oui.
Mais il se forge une image de rebelle. Il a un exemple en tête.
Oui, c'est Brando, en fait. Ouais. L'exemple est pour toute cette génération-là, c'est Marlon Brando, et c'est pour ça que la connexion avec Elia Kazan marche bien. C'est Kazan repère aussi chez James Dean les mêmes caractéristiques qu'il avait eu chez Brando, qui avait électrisé vraiment la jeunesse de cette époque-là. Mm-hmm. Moi, je suis assez dubitatif et je rejoins un petit peu la thèse du film, c'est que il y avait aussi de la posture, il y avait aussi du travail d'acteur dans tout ça. Et l'acteur qui joue James Dean dans le film, qui s'appelle Dane DeHaan, que j'ai rencontré au Festival de Deauville, qui a beaucoup étudié le personnage évidemment, est assez d'accord sur ça. Si vous voulez, on l'écoute.
Ah, mais avec grand plaisir.
Well, he's definitely been turned into an icon, for sure. I don't really think that people think of James Dean, though, and be like, oh, that guy, he was one of the original great realistic actors.
Alors, on n'a pas la version traduite. C'est dommage, parce qu'on avait, c'était quoi, la Fureur de Vie tout ouais. à l'heure en version française, alors qu'on l'avait
interview. Non, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'évidemment, c'est une icône, oui. mais que pour lui, toute cette posture, toute cette réputation de rebelle, ce n'était que du travail. C'est-à-dire qu'il avait compris aussi ce qu'il fallait donner au public pour que le public s'identifie.
C'est ce
lui.
Que voulait la jeunesse américaine.
Exactement.
Du milieu des années 50.
Et il avait bossé ce rôle jusqu'à ce que, aujourd'hui encore, des années après sa mort, on l'identifie justement au symbole de la rébellion.
Stéphane Boutsock, on dit que James Dean se fait remarquer dans une pièce française. C'est l'immoraliste
c'est
de Gide.
Gide. Ouais. Oui. Il a un rôle extrêmement ambigu. Il joue le rôle d'un petit Marocain homosexuel. Donc il le fait extrêmement bien sur scène et il est remarqué évidemment parce qu'il est criant de vérité là aussi. Et oui, c'est une pièce, alors c'est ce qu'on peut appeler un peu le off-Broadway, c'est des pièces un peu underground. Dans tous les cas, c'est les pièces que tous les artistes vont voir, tous les producteurs, tous les cinéastes, et Kazan aussi voit cette pièce et se dit, là, il y a évidemment quelque chose.
Mais vous décrivez donc quelqu'un de talentueux, de précoce, puisque tout petit, il reçoit des prix. Est-ce qu'il a aussi appris son métier d'acteur ? Il y a l'Acteur Studio, par exemple, que tout le monde connaît.
Mais il va s'inscrire à l'Acteur
D'accord,
Studio. Et bizarrement, ça ne va pas trop bien se passer non plus.
C'est le côté bad boy qui revient, c'est ça ?
Oui, avec Lee Strasberg, qui est le grand patron de l'Acteur Studio, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne va pas en cours, et il va même se plaindre, il va dire, mais ce n'est pas possible, les méthodes de Strasberg, c'est du viol mental, c'est de l'acharnement, ça ne marche pas, et il ne va faire que passer à l'Acteur Studio, vraiment. Mais il y va aussi parce que Brando y était allé, et qu'encore une fois, c'est son
idole. Mais c'est quoi, c'est un moule, l'Acteur Studio ?
Oui, Strasberg, qui avait aussi bossé avec Marilyn, avait été très très critiqué pour tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait presque un côté gourou, d'après ceux qui ont fréquenté cette école.
Là, on est à quelques pas du cinéma. James Dean, à l'affiche de grands films, de trois grands films. On vous raconte la suite dans son destin très court mais brillant dans un instant dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
60 ans après sa disparition en pleine jeunesse, James Dean continue d'intéresser les cinéastes et les acteurs d'aujourd'hui. Le film d'Anton Corbijn évoque la relation complexe entre deux artistes jeunes et inconnus, tous deux en quête de reconnaissance.
Jusqu'à 22h.
Mais qui était vraiment James Byron Dean ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qui était vraiment James Byron Dean ? On est en train de répondre à la question grâce à Stéphane Boutsock. On vous compte ce destin brisé d'une star hollywoodienne à l'occasion, vous l'avez entendu, de la sortie du film Life, qui raconte cette rencontre entre James Dean et un photographe tout jeune, Denis Stock. Est-ce qu'il y a, alors moi j'ai vu le film, donc je connais la réponse, il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux?
Non, et le film ne laisse planer aucune ambiguïté. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment ça, je pense qu'il n'y a pas eu de relations entre les deux hommes, ce qui n'enlève rien au passé, à la sexualité double de James Dean, mais en tous les cas,
il le drague à peine au début du film.
Bah, c'est-à-dire qu'on sent, oui, que mais chacun drague l'autre parce que le photographe a absolument besoin de James Dean. Oui, et puis James Dean comprend aussi que ça peut lui servir un moment. Donc
il était bisexuel, James Dean.
Ah bah alors oui, enfin c'est la thèse officielle, c'est-à-dire qu'on lui connaît des fiancées EES, notamment Ursula Andress. Il a eu quelques jolies filles, quelques jolies filles. Pierre Angeli, dont on parlera peut-être. Et puis oui, on sait que quand il revient à Los Angeles au tout début de sa carrière, il a un amant. On a parlé de ce Pygmalion tout à l'heure qui était aussi un mentor et un amant. Oui.
Cette bisexualité, elle était officielle.
Non.
C'est-à-dire que non.
On est quand même dans les années 50. C'est-à-dire, c'est
pas. Il n'y a même pas de rumeurs. C'est absolument.
Bah, les rumeurs, si, parce qu'elles sont venues jusqu'à nous, et on sait, oui, que par moment, il s'est servi de personnes opportunément.
Mais à l'époque,
on
n'en
parle surtout pas.
L'idole des femmes.
Évidemment, même si dans Géant, notamment, il y a des scènes. Il y a Rock Hudson aussi dans Géant, donc il y a eu sans doute une attirance entre les deux hommes, puisqu'on a appris après que Rock Hudson était homosexuel beaucoup plus tard, au moment de sa mort. C'est ça qui est terrible. Mais non, à l'époque, il ne faut surtout pas en parler. Non, bien sûr.
Stéphane Boutsock, James Dean, c'est trois films qui l'ont rendu extrêmement célèbre, qui fait qu'il est arrivé jusqu'à nous. C'est unique dans l'histoire du cinéma?
Ah, je crois, oui. Parce qu'en plus, ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que non seulement les films ont été des succès, il y en a deux qui sont sortis après sa mort, en tous les cas en France. J'ai regardé tout à l'heure, ce sont des films qui ont fait 4 millions d'entrées chez nous, ce qui, même à l'époque, est quand même colossal dans ces années-là.
Ce sont des films. Pas 60 millions d'habitants, donc
exactement.
4 millions d'entrées.
Il n'y avait pas tant de salles que ça non plus à cette époque-là. Mais oui, c'est assez unique parce que Marilyn est morte, elle aussi, très, très jeune, dans des conditions dramatiques, mais elle avait une vraie filmographie importante. Lui, en effet, vous le dites, hein, trois films qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques et quelques-uns dans ces trois comme des chefs-d'œuvre, vraiment.
Pourquoi et comment en trois films il devient aussi célèbre, James Dean?
Ben regardez-les. Revoyez-le. Non, mais moi, j'ai un petit peu révisé, donc j'en ai revu quelques extraits. Il y a une présence qui est juste hallucinante, mais il apparaît. Vous savez, il y a des acteurs comme ça ou les actrices qui chopent la lumière, vous les mettez devant une caméra, il se passe quelque chose. C'est ça, James Dean. Puis il y a le phrasé, il y a l'attitude, il y a la provocation, il y a les thèmes des films aussi, il y a ses partenaires. Enfin, il y a une alchimie de choses qui font, oui, que ces films sont remarquables et encore remarqués aujourd'hui.
L'un de ses premiers films, c'est À l'Est d'Éden, d'Elia Kazan. Vous disiez qu'il l'a repéré, ce réalisateur, il l'a repéré à Broadway, il l'a repéré au théâtre. Pourquoi il choisit James Dean pour ce film?
Parce que Kazan a fait notamment tourner Brando et que il a le pif pour repérer les animaux, les bêtes de scène, les bêtes de cinéma, et je crois qu'il a été saisi tout simplement parce que dégageait James Dean, et il avait conscience qu'il pourrait très bien incarner ce jeune homme qui, dans le film, et puis parallèle avec la vie, était en butte à l'autorité de son père et se rebellait. Voilà, il a repéré le rebelle.
Mais quand James Dean arrive sur le tournage, c'est un inconnu. Il a joué quelques rôles à Broadway.
Oui, quasiment.
Tout,
il a fait 2-3 petites apparitions dans des films. Oui, il n'est pas du tout connu. C'est un vrai pari, hein, d'ailleurs. La Warner qui le prend sous contrat à cette époque-là.
C'est le type de Pepsi pour les gens ou pas?
Je pense que pour le très grand public, oui, il est connu surtout pour la pub Pepsi, parce que les pièces off-Broadway, le grand public n'y va pas. Et dans ses films précédents, on l'a juste aperçu. Donc oui, c'est un pari.
Oui, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Et donc il débarque à Los Angeles. Il vit comment?
Alors il n'a pas de sous. Il vit en partie dans les décors du film. Ça fait partie, vous savez, de la mythologie de l'acteur. Je vis mon rôle, etc. Il emprunte aussi de l'argent, alors il a quelques camarades qui peuvent l'héberger aussi, mais oui, c'est vraiment le petit gars qui arrive de sa campagne, c'est vraiment ça, sur lequel pas grand monde parie, mis à part Elia Kazan et un petit peu la Warner, et qui va, oui, s'en sortir.
Donc il joue James Dean le rôle dans À l'Est de l'Éden, de Cal Trask. Quelle est son histoire? Quel est ce personnage?
Ce personnage, c'est un jeune homme auquel vraiment la jeunesse américaine, et puis par ricochet après la jeunesse européenne et notamment française, va pouvoir s'identifier, parce que c'est un jeune homme qui dénonce en fait le système. Et encore une fois, ces années-là, c'est des années de la reconstruction, c'est des années extrêmement pudiques, pudibondes, pieuses, où la religion a beaucoup d'importance, où on respecte la famille, on respecte l'image du père, et lui, il arrive et il va dire imiter tous ces codes, et notamment Elvis Presley, qui également à ce moment-là commence à se faire connaître, dira vraiment que ça a été aussi quelque part un modèle et une source d'inspiration, vraiment quelqu'un qui osait se rebeller contre un système.
À l'Est d'Éden, on écoute tout de suite un extrait du film.
Son, I'd be happy if you'd give me something like, well, like your brother's given me, something honest and human and good. Don't be angry, son. If you want to give me a present,
Give me a good life.
Bon, celle-là est en anglais, ce qui est bien parce qu'au moins on a les voix originales. Pourquoi elle est importante cette scène? C'est une scène entre
le fils
et son père. Donc on est au cœur de la relation conflictuelle entre les deux, c'est ça?
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas que le père supplie, mais le père dit à son fils, voilà, au moins si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-moi une belle vie, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire, voilà, rends-moi fier.
C'est le plus beau cadeau que tu me feras.
C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Sauf évidemment que le fils n'a aucune intention de suivre ce que veut faire son papa, veut dire son papa.
Est-ce que c'est ce petit côté voyou, rebelle qui a séduit Pierre Angeli, qui est la partenaire à l'écran de James Dean dans À l'Est de l'Éden?
Alors oui, c'est aussi ce qui va casser le couple. Mais oui, il y a ce côté blouson de cuir, cheveux déjà quand même un petit peu longs pour l'époque, attitude. Alors, ça colle pour elle, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire d'amour. D'ailleurs, je pense que ça sera quasiment la seule très très belle histoire d'amour de la courte vie de James Dean, mais avec la maman de Pierre Angeli, qui est quelqu'un qui est très croyante, pour qui les conventions ça compte, pour qui les codes ça compte, ça ne passera jamais, et elle va tout faire, et elle va réussir d'ailleurs pour casser ce couple, et c'est Pierre Angeli qui va partir pour se marier quelqu'un d'autre, qui va briser le cœur de James Dean.
Et dans le film Life, il y a une scène qui est très frappante où James Dean est à une conférence de presse.
Et on lui apprend
que Pierre Angeli vient de se fiancer. Ça s'est vraiment passé.
Ça s'est passé comme ça.
C'est-à-dire que quelle violence.
Mais vous savez, un peu plus près de nous dans le temps, quand on regarde ce qui s'est passé entre Alain Delon et Romy Schneider, par exemple, l'entourage de Romy Schneider a aussi beaucoup beaucoup compté pour casser le couple, parce que Delon, qu'on peut rapprocher par certains côtés de ce que dégageait James Dean, avait aussi cette image de petite frappe, de très beau voyou en tous les cas. Mais la maman de Pierre Angeli a tout fait pour que ça ne se passe pas. Oui.
Stéphane Boutsock, est-ce que ce film à l'Est Eden a rendu James Dean célèbre dès sa sortie?
Alors, oui, parce que le film est un succès, mais au-delà du succès public, c'est l'impact aussi que ça va avoir sur la réputation et le côté bankable, comme on dit aujourd'hui, de James Dean. C'est-à-dire que Warner, qui a misé quand même de l'argent sur lui, qui a investi sur un poulain, se rend compte que non seulement il est bon à l'écran, mais qu'aussi les gens, apparemment, commencent à se déplacer pour le voir, et puis qu'il peut se passer quelque chose. Et à partir de là, oui, Jack Warner, on le voit dans le film, malgré tous les défauts que ce petit con de James Dean, comme il dit, peut avoir, il se dit qu'il y a peut-être quand même un cheval sur lequel miser.
Ça va au-delà du bon acteur, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il représente quelque chose à partir de ce moment-là.
Et puis c'est là que les studios vont commencer à recevoir des caisses de courrier, c'est ça? Des lettres de filles?
Oui, je crois que c'était plusieurs milliers de lettres à un moment par semaine. Oui, c'est pas encore une idole, mais en tous les cas, ça fait partie des jeunes premiers que les filles remarquent et à qui elles écrivent en espoir d'avoir une photo, peut-être, dédicacée.
James Dean, la star, l'étoile filante, fou de vitesse aussi, qui avec ses premiers cachets de star s'offre de nouvelles voitures et participe à des courses automobiles. On sait comment ça finira, on vous raconte ça dans un instant.
Vous écoutez RTL.
James Dean, l'étoile filante d'Hollywood, s'est éteinte il y a tout juste 60 ans, et avec notre invité Stéphane Boutsock, on retrace son destin jusqu'à ce fameux 30 septembre 1955. On l'a dit, c'est un comédien fougueux, rebelle, et dès qu'il commence à gagner un petit peu d'argent, il va s'acheter des motos, des voitures de course, j'imagine au grand désarroi des producteurs.
Bah oui, c'est-à-dire que je crois qu'avec un de ses tout premiers cachets, quelque chose comme $800, il s'achète une Triumph, donc déjà une voiture qui n'est pas une voiture de papa, quoi, ce qui est une voiture déjà avec l'idée de rouler vite, mais c'est un fondu de sport. Hein. Il a failli être dans sa jeunesse, en tous les cas, il a fait du baseball, du basket, il voulait être entraîneur même de sport, donc il adore ça, il adore la compétition, et puis il adore la vitesse, donc oui, mais...
Il n'a pas le droit d'en faire.
Bah non, logiquement, la Warner, par contrat, lui interdit de participer aux courses, et il y a des recommandations, parce qu'il a quand même pas mal d'amendes, il a pas mal de contraventions, il adore rouler à toute blinde la nuit, pratiquement phare éteint dans les rues de Los Angeles. Il y a presque un côté d'ailleurs suicidaire hein, dans le personnage, en tout cas de course contre la vie pratiquement, et Warner essaye vraiment de minimiser ça et de l'empêcher de faire la bêtise.
Et pourtant ce 30 septembre 1955, c'est bien une course automobile qui va se rendre, James Dean.
Il va à Salinas, en Californie, il a décidé, donc là il est sous contrat, hein. il doit terminer, il vient de terminer à peine ce qui sera son dernier film,
Géant.
Et il décide d'y aller. Il emmène son mécanicien avec lui dans sa Porsche, cette voiture qu'il appelle Little Bastard, qu'on peut traduire par petit con, en fait. Il l'a emmené avec lui pour participer à la course. Il sait très bien qu'il fait une bêtise. Ouais. Et en plus, vous savez que c'est terrible parce que sur la route de cette course, quelques heures avant de se tuer, il est arrêté par la police et il a une amende pour vitesse excessive. Ça, c'est quand même un truc du destin sur lequel, malheureusement, il tilte pas.
Mais il n'a pas entendu ce signe du destin.
Il n'a pas entendu celui-ci.
C'est peut-être intéressant quand même de revenir sur le tournage de Géant. Comment ça s'est passé? Ça
pas
a été
bien.
Éprouvant.
Ça s'est pas bien passé.
Ça, c'est clair.
Voilà. Ouais. C'est pas un des films qu'il avait très, très, très envie de faire. Il y a une raison, c'est qu'il déteste Rock Hudson en tant que comédien. Mmh. Il trouve déjà un peu vieux. Il aime pas son jeu. Donc, il reste tout seul de son côté. Il se mêle pas à l'équipe. Il y a une amitié avec Elizabeth Taylor quand même, qui parlera de lui d'ailleurs avec pas mal d'émotions et des jolis mots quand il va disparaître. Mais ça se passe pas très, très bien. Non, il apprend pas tout à fait son texte. Il se mêle pas à l'équipe. C'est pas un film qu'il a renié. De toute façon, on le saura jamais puisque le film est sorti après sa mort. Ouais. Mais en tous les cas, l'équipe n'en gardera pas un souvenir formidable.
En tout cas, c'est assez terrible parce que ce fameux 30 septembre 1955, il part en direction de Salinas pour faire cette course automobile. Et ironie du sort, il venait de tourner un spot pour la sécurité routière où il donnait des conseils de prudence. On écoute.
Jimmy, I'd like your opinion about fast driving on the highway.
Alors, on va vous le traduire. Jimmy, j'aimerais votre opinion sur la conduite rapide sur l'autoroute. Vous pensez que c'est une bonne idée?
Oh, j'avais l'habitude de conduire vite et de prendre des risques inconsidérés. Et j'ai commencé la course automobile. Et maintenant, je conduis sur l'autoroute avec beaucoup de prudence.
Ça, c'est pas mal. Et ensuite, la conclusion. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes conducteurs? Qu'est-ce qu'il dit, James Dean?
Take it easy. Soyez prudent sur la route. La vie que vous sauverez sera peut-être la mienne.
One more question. Do you have any special advice for the young people who drive?
Take it
easy driving. The life you might save might be mine.
Ça, c'est génial parce qu'on a la voix de James Dean, effectivement traînante comme ça avec.
L'incident, ce qu'on disait tout à l'heure. On sent bien dans le film.
Et donc, il n'applique pas les conseils qu'il donne aux jeunes, manifestement. Qu'est-ce qui se passe ce 30 septembre 55? C'est en allant à cette course automobile qu'il se tue? C'est pas.
En allant à cette course, en fait, il va arriver à une intersection où la route sur laquelle il est croise une autre route et il s'arrête, il grille pas le stop, il regarde, sauf que la route est bosselée, si vous voulez, et à ce moment-là, ça se joue peut-être à 30 secondes, à ce moment-là, il ne voit pas une autre voiture qui est conduite par un jeune étudiant qui arrive, évidemment, il s'engage et le choc va être, je crois, autour de 90 km/h quand même, parce qu'il redémarre et la Porsche, je pense qu'elle a un bon coup d'impulsion au démarrage et le choc est effroyable. Le gars qui est avec lui, le mécanicien est éjecté de la voiture. Lui, il meurt sur le coup. En tous les cas, c'est ce que les policiers ont dit après. Et l'étudiant qui le tue, lui, va survivre et évidemment est totalement dévasté parce que James Dean est une idole pour lui. C'est-à-dire qu'il l'a vu, évidemment, il sait. Il a vu ses films.
Il avait un nom incroyable, cet étudiant.
Oui.
Donald Turner Speed, c'est ça?
Bah oui, c'est-à-dire que si on décompose, turn tournant et speed vitesse. Enfin, c'est vrai que si on analyse tous les signes, si on y croit, c'est effroyable jusqu'au bout.
En fait, Stéphane Boustock, il y a juste tous les ingrédients pour créer une légende.
Oui, exactement. Ça, elle commence là, la légende. Et en plus, moi, je me souviens, étant gamin, avoir eu des bouquins, il y a des photos qui sont prises très, très tôt parce qu'il y a des policiers qui ne sont pas très, très loin et il y a des photos de l'accident. Alors, on voit l'état des voitures, c'est une épouvante. Ouais. Et il y a des photos qui sont restées de ce moment-là. Notamment, moi, je me souviens d'une photo de l'étudiant qui est totalement hébété encore des heures après au bord de la route. Il pleure, il a compris qu'il a tué James Dean.
Cette voiture, la Porsche Schneider, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, il l'avait donc surnommée Little Bastard.
Oui.
Petit con.
Petit
voyou. Elle est un peu maudite, cette voiture, c'est ça? Ça n'a pas été la seule victime, James Dean, de cette Porsche?
Alors, je crois, mais alors ça, j'ai pas tout à fait. Oui, je crois que elle a été. Ce qu'il en restait, en tous les cas, a été vendu par morceaux à des propriétaires successifs. Et oui, il me semble qu'ils n'ont pas tous connu, malheureusement, un sort extrêmement heureux.
Mais
on continue
encore dans la construction de
la légende noire.
Ouais, oui, c'est fascinant. Terrible. Parce que quand une étoile filante, quand une star de cette dimension meurt, forcément tout le monde cherche
des signes, ce qui aurait pu l'annoncer, oui.
Bien sûr.
Non, puis il part dans la gloire, c'est-à-dire qu'il est, il est au sommet de son art. On sait que sans doute, hein, il y aurait eu d'autres films après. Mm-hmm. Il est beau comme un dieu, évidemment. Il y a déjà plein d'histoires qui tournent autour de lui. Il part au sommet.
Mais ça veut dire que James Dean, alors qu'il meurt le 30 septembre 1955, il devient une icône dans les semaines qui viennent, ou ça va quand même prendre quelques années aux États-Unis, en France?
C'est-à-dire que quand il meurt, le film Géant vient à peine d'être terminé. Je crois qu'il n'a pas eu le temps encore de faire tous les raccords voix, donc on va en plus utiliser
une doublure.
Mais c'est un peu, vous savez, ce qui est arrivé à Paul Walker avec le dernier Fast and Furious, c'est exactement ça. Il est mort, le tournage pas tout à fait achevé. Mmh. Alors maintenant, la technologie permet.
Et c'est son frère qui joue.
C'est son frère qui l'a remplacé. Ouais. On est exactement dans ça. Et quand Géant va sortir, les fans de James Dean vont voir l'ultime film, malheureusement. Et puis le public aussi le grand public, je dirais, a été sensibilisé. Donc le film, évidemment, est un très gros succès. Il est nommé aux Oscars à titre posthume, ce qui arrive évidemment extrêmement rarement. Donc la légende, voilà, elle continue dès ce moment-là aussi.
Dans le film Life, dont on parle avec vous depuis quelques minutes, Stéphane Goodsock, on voit que James Dean peut, lors des interviews, être moqueur, corrosif pour le vieux cinéma américain.
Oui, mais vous savez, rappelez-vous aussi des interviews des Beatles, par exemple,
oui.
qui sont aussi un peu le pendant de ce qu'a été James Dean dans la musique, c'est-à-dire des jeunes rebelles qui chantaient des choses qu'on n'avait pas l'habitude de chanter. Mm-hmm. Les interviews, c'était à hurler de rire, mais c'était méchant, c'était acide, c'était cruel. Il y a aussi, alors c'est avant les Beatles pour le coup, James Dean,
oui, oui.
Mais il y a cette idée-là, oui, d'assumer ce personnage ou ce rôle qu'on veut vous donner dans la société jusqu'au bout, en étant, oui, cassant, en faisant des blagues, en répondant pas. Enfin, oui.
Si je me souviens bien de la scène, le journaliste lui demande s'il a aimé L'Homme des Plaines, c'est ça?
Oui.
Et là, il part dans un fou rire.
Oui, oui, parce
qu'il se tourne vers tous les gens dans la salle. Vous avez vu L'Homme des Plaines, etc.
Et, donc, et ils sont tous catastrophés parce que, évidemment, ça ne se dit pas, c'est un film.
Surtout que le film était produit par.
Par
la Warner.
La Warner, exactement, c'est sa maison.
Employeur.
Et on les voit, ils se décomposent. Et je crois, et Jack Warner, d'ailleurs, lui remonte un peu les bretelles dans la foulée. Oui. Oui.
Il aurait eu 84 ans, James Dean, s'il avait vécu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des scénaristes à Hollywood qui ont imaginé cette vie sans cette mort, la carrière de James Dean jusqu'à maintenant?
Ce qu'il aurait pu être. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que Life, ce n'est pas un biopic. C'est peut-être aussi pour ça que le film a un petit peu de mal à démarrer. C'est vraiment quelques mois de la vie de James Dean. Mais la mode étant biopic, moi, j'espère que quelqu'un va se pencher, oui, sur ce destin. Il y a tellement de trucs à raconter de sa vie personnelle, de la façon dont il s'est construit en tant qu'être humain, de l'acteur qu'il a été, de ce qu'il a laissé, faut trouver l'acteur, hein, ça va pas être facile, mais en tous les cas, c'est un projet qui pourrait être très intéressant.
Merci beaucoup Stéphane Goodsock.
Merci à vous.
On
Stéphane.
Vous entend dans la curiosité, bien sûr, mais vous n'êtes pas qu'à nous. On le sait, on vous entend tous les matins dans Laissez-vous tenter. Entre 9h et 9h30 sur RTL, à Yves Calvi, il va pas être content si on vous pique.
Il est prêteur.
Il est prêteur,
oui,
bon, bah d'accord.
Merci
vous
Stéphane.
Merci.
Merci à vous. Bonne soirée.
Vous écoutez RTL.